Chapitre 2. Ténérife. Ancienne Atlantide de Platon, Gonche, Mœurs, Ingrain. Cependant la brise se leva de l'est, forte et presque carabinée. Nous virâmes au cabestan avec les champs et les jurons d'usage, et une heure après, nous courions vent arrière dans le détroit, saluant de nos derniers regards la masse imposante de granit que nous nous estimions heureux d'avoir pu étudier. Le navire glissait et bruissait entre l'Europe et l'Afrique, cette Afrique inconnue que nous retrouverons plus tard au Cap de Bonne-Espérance, car cette belle Europe que beaucoup d'entre nous sont condamnés à ne plus revoir. De loin, nous saluâmes de la main les royaumes de Fès et de Maroc, où le sol et les mornes pelées se dessinent noirs sur un ciel rouge et brûlant. La houle grandissait et nous étions balancés avec majesté. Les mouvements de la corvette avaient pris une allure plus grave, moins saccadée. Nous naviguions enfin dans l'Atlantique. Ce sont surtout ces premiers passages d'une navigation sur les côtes à une navigation au large qui laissent dans l'âme de profonds souvenirs. Là se fait une vie nouvelle, là se dressent de nouvelles émotions. Le ciel et l'eau, le bruit des vents et le mugissement des vagues, c'est tout ce qui vous est accordé pour tromper la lenteur des heures. Et lorsqu'après une belle journée de route, vous avez tracé sur la carte la petite ligne indiquant les 40 ou 50 lieues que vous avez franchies, vous jetez un regard sur l'immensité qui se développe devant vous. Vous sentez le courage s'éteindre, l'affaissement se mêler à l'ardeur de l'étude, et vous regrettez une terre, une patrie, des amis, que vos vœux les plus ardents ne peuvent vous rendre. Mais ces premiers regrets n'ont guère de durée. La mer aussi a ses joies et ses fêtes, les relâches, leurs plaisirs et leur ivresse. Et bientôt, ce n'est plus derrière soi qu'on regarde, c'est là-bas, là-bas à l'horizon, pour voir s'il ne pointe pas au-dessus des flots un roc, une île, un promontoire, un continent que vous avez hâte de fouler et de connaître. Ne vous l'ai-je pas dit? Une terre se lève devant nous. Elle grandit sous mille formes bizarres. Ce sont les Canaries, c'est Ténérife. Amen et cargue, mouille! L'encre tombe sur un fond de lave et de galets brisés. Nous sommes à Sainte-Croix. Vous voyez que je suis généreux, que je ne vous tiens pas longtemps en mer. Autour du navire voltigent à l'instant quelques légères embarcations d'où s'échappent des voix rauques et sourdes qui nous offrent du poisson frais, des oranges et des bananes. Oh, que d'attrait dans les voyages! Le bonheur sans cesse à côté d'une catastrophe, l'abondance près des privations, et le passage presque imprévu d'une atmosphère rude et froide, un ciel bleu et une zone tempérée. Mais nous avons touché à Gibraltar, nous voici en quarantaine, et ce n'est qu'à l'aide de longues perches que nous faisons nos emplettes et nos échanges. Voilà encore les vicissitudes de la mer. Cependant la nuit est calme et douce. Avide des premiers rayons du jour, nous couchons tous sur le pont en attendant que l'Orient africain se colore. Les cimes des monts sont bâties comme des nids de condors, des bastions crénelés, sans pourpre, se réveillent, et le grave et imposant panorama qui s'offre à nous peut être étudié avec profit. La côte, sous quelque aspect que l'interroge vos regards, est raboteuse, tranchante, écaillée, coupée de petites criques peu profondes, où le flot se brise en échos prolongés. Partout des aspérités, des pyramides de lave, indiquant la violence d'une secousse sous-marine, et sur les flancs des mornes, des couches horizontales, serpenteuses, diversement colorées, disant aux géologues la marche et presque la date de chaque éruption. Désespérés de traduire fidèlement sur le papier ou sur la toile ce terrible paysage, que vous garderez bien mieux dans vos souvenirs. À chaque pas du soleil, la scène change. Les ombres des clochers naturels qui s'élancent dans l'air se rapetissent, s'allongent, se croisent, se brisent, se heurtent, et vous avez à peine le temps d'admirer une espèce de grandeur qu'une scène nouvelle efface et lui succède. L'archipel des Canaries, connu des anciens sous le nom de Fortuné, est composé d'un groupe de 7 îles dont les plus grandes sont Canaries, Fortaventure et Ténérife. Cette dernière est la plus fertile et la plus peuplée. On y récolte 8000 barriques de vin par an, et vous savez qu'on en boit à Paris seulement, dans un temps égal, plus de 20 000, qui à coup sûr n'ont pas toutes traversé les mers. Ces îles sont volcaniques, ainsi que toutes celles de cet océan. On y compte environ 140 000 habitants, dont 64 000 appartiennent à Ténérife. Sainte-Croix, où réside le gouverneur, quoique l'audience royale soit établie à Canaries, est une petite ville assez sale, s'étendant du nord au sud. La moitié des rues à peu près sont pavées, et les Espagnols y conservent les mœurs et les habitudes de leur pays, sauf les modifications nécessitées par le climat. Le bord des maisons est peint de deux bandes noires et larges qui ne tendent pas mal à leur donner un aspect lugubre. De loin, on dirait le drap blanc avec la frange funèbre d'une vierge au cercueil. La rade, ouverte à tous les vents, excepté au vent d'ouest, si rare dans ses latitudes, n'a de remarquable que son peu de sûreté, car le fond en est excessivement mauvais et les atterrissages très dangereux. Nous y trouvâmes deux ou trois brigues de commerce français et américain qui faisaient de l'eau et une demi-douzaine de pinques espagnoles montées par des hommes dont l'existence tient du prodige. Figurez-vous un navire à moitié pourri où sont attachées deux poutres en forme de mât soutenant quelques fragments de vergue auxquels on a collé de lambeaux de toile de diverses couleurs, recevant à peine un souffle de vent qui se joue parmi leurs débris. Placez à leur sommet un morceau de chemise rouge ou une queue de requin en guise de pavillon. J'étais sur un navire ainsi équipé, une quarantaine d'êtres velus et bronzés, entassés les uns sur les autres, sautant, jurant, faisant si rapidement qu'ils le peuvent le trajet du Cap Blanc où ils vont pêcher, à Ténérife, où ils vendent leurs poissons, ne se nourrissant que de quelques légumes et de pâtes faites avec du maïs, et vous n'aurez encore qu'une faible idée des mœurs et de la vie de ces hommes étrangers aux coutumes de leur nation et soumis seulement aux codes de loi qu'ils se sont créés. Leurs témoignages d'amitié sont des cris, leurs querelles des vociférations, leurs armes des couteaux, leurs vengeances du sang. Il y a là, sur chaque navire, fait du débris de 20 navires, deux ou trois femmes jaunes, maigres, sales, en guenilles, qui sont la propriété de tous les hommes. Elles dorment au milieu d'eux, elles rient, elles jurent, elles se promènent sur le pont et fument de volumineux cigares. Dans les tempêtes, elles sont les premières aux manœuvres les plus difficiles, et bien des fois l'équipage entier a dû son salut à leur dévouement et à leur courage. Il y a là aussi, couchés sur des cordages noueux et suiffés, des enfants encore insensibles au danger d'une vie si effrayante qu'appelle papa tous les matelots, et roulent au tangage au milieu des barils de poissons dont on les retire souvent déchirés et meurtris sans que leur mère en soit alarmée. Je me suis fait conduire sur une de ces pinques de malheur où ma présence fera époque et sera rappelée pendant bien des années. Prévoyant l'aisance que je pourrais y apporter, je m'étais muni de quelques hardes et j'avais à grand-peine escaladé jusqu'à ces hommes de bitume et de fer. Les saluant alors en espagnol d'une voix que je m'efforçais de rendre caressante, je demandai à plusieurs d'entre eux la permission de les dessiner. Ils s'y prêtèrent à tous de la meilleure grâce du monde et jamais modèle de nos ateliers ne garda une plus impassible immobilité. Une des femmes surtout prit un air grave et si ridiculement imposant que j'eus beaucoup de peine à garder mon sérieux. Je venais d'achever mon travail quand je me fis donner par un de nos matelots, qui n'avait pas osé se frotter à des malheureux si visiblement dévorés par la vermine, le paquet que je lui avais promis, et généreux et compatissant, je jetai sur l'un des petits enfants qui me regardait et faisait entendre à peine quelques paroles de prière, un mouchoir et une chemise. Aux deux femmes, je fis cadeau de 4 mauvais madras réunis qui pouvaient leur servir de jupe, d'une paire de ciseaux et de 3 ou 4 peignes à démêler. Et à quelques autres, je distribuai tout ce qui me restait de ma petite pacotille. Tout fut reçu par eux avec une expression de reconnaissance, avec des paroles de tendresse et de dévouement qui me touchèrent jusqu'aux larmes. Mais ce qui, surtout, leur causa une joie vive et spontanée, ce fut une image coloriée représentant la Vierge des douleurs au pied de la croix, que je déroulais à leurs yeux comme une sainte relique. Oh, jamais je n'oublierai cet élan de béatitude qui se manifesta dans tout l'équipage. C'était de l'amour, du délire, du fanatisme. Peu s'en fallut qu'on ne m'adorât comme l'image que j'offrais. Elle fut à l'instant portée à toutes les lèvres, posée au pied du mât, et tous à genoux et d'une voix formidable entonnèrent un cantique latin. Quel latin, bon Dieu! Nous étions en rade depuis 2 jours et nous n'avions encore vu le fameux pic de fort loin dans un horizon douteux. Je brûlais de le gravir, mais comme il est à 8 lieues de Sainte-Croix et que nous en ignorons la route, le gouverneur aplanira sans doute pour nous les difficultés du voyage. Le Français qui remplissait les fonctions du consul nous assura, avec un sourire malin, que le gouverneur ne répondrait pas à la lettre officielle que notre commandant lui avait adressée. Comme on nous avait dit à Gibraltar que c'était le général Palafox, il me fut difficile de deviner le motif de son silence. Mais le consul, en nommant Don Pedro de Laborias, nous donna d'autres raisons. Monsieur le gouverneur ne sait pas écrire, et son secrétaire, il ne sait pas lire. Nous allons faire nos observations au lazaret, distant d'une demi-lieue de la ville. Une rangée de petits cailloux séparait les malades des habitants. Un soldat de la garnison, portant sur l'épaule une arme qui ressemblait assez à un fusil, était là pour veiller à la sûreté publique Il mangeait, en se promenant, une boule de pâte qu'il pétrissait dans la main. « Que mangez-vous, camarade ? Du pain ?» Je cherche en vain à me persuader qu'il ne me trompe pas. « Est-il bon ? Excellent, goûtez !» Ma langue se colle à mon palais. « Et de l'argent ? Jamais !»« Vous n'en avez donc pas ?»« Pour dire où je ferai le tour de l'île. » »« Voulez-vous accepter cette demi-piastre pour boire à ma santé ?»« La somme est trop forte, on croirait que je l'ai volée. »« Acceptez !»« Ma foi, monsieur, je craignais de ne pas vous entendre répéter votre offre généreuse. » Mille remerciements. Un regard d'un de mes grenadiers eut fait reculer le piquet qui vint relever la sentinelle. Ce ne sont pas des Espagnols. Quand je vois deux ou trois forts irréguliers, placés de manière à être facilement bombardés, quand je n'aperçois qu'un petit mur crénelé sur les sommets qui dominent la ville, quand je sais que sur presque tous les points de l'île on peut sans difficulté opérer des débarquements à l'aide de chaloupes, je me demande comment il est possible que l'amiral Nelson soit venu laisser ici un bras, toutes ses embarcations, ses drapeaux et ses meilleurs soldats, sans pouvoir s'emparer de Sainte-Croix. Qu'un de nos amiraux y soit envoyé, il n'y laissera ni ses vaisseaux, ni ses soldats, ni ses drapeaux, et nous aurons l'île. Nous étions décidément condamnés à une quarantaine de 8 jours. Plaignez-moi d'être forcé au repos et à l'inaction. J'ai devant les yeux une nature sauvage et rude, au loin un pic neigeux et volcanisé à gravir. Dans l'intérieur de l'île, des mœurs moitié espagnoles, moitié guanches, à dessiner, pour ainsi dire, au profit de notre histoire contemporaine. Rien ne m'est permis, par je ne sais quelle humeur bizarre, d'un homme à qui nous donnions pourtant toute sécurité pour la santé des habitants sur lesquels il règne en véritable magistère de village. Cependant, honteux sans doute de son obstination, le gouverneur nous releva enfin de notre quarantaine, et nous fûmes autorisés à parcourir et à étudier l'île. Aussi, touchés d'une générosité si courtoise et si peu attendue, nous levâmes l'ancre et partîmes, non sans lui dire adieu par une seule bordée. Le pic dégagea sa tête blanche des nuages qui la voilaient. Il se montra dans toute sa majesté, menaçant et dominateur, et le lendemain, à plus de 40 lieues de distance, nous le voyions encore au-dessus de l'horizon. Toute terre s'effaça de nouveau, nous naviguâmes dans une mer tranquille et belle. Ici, point de ces tempêtes horribles qui dématent et ouvrent les navires, point de ces temps orageux qui rendent si pénibles les courses des navigateurs dans les zones élevées, point de roulis qui fatigue, point de tangage qui torture. J'écris et je dessine à mon aise. La traversée jusqu'au Brésil sera trop courte et trop paisible. N'importe, il faut savoir se résigner. Mais là-bas, là-bas, loin de nous, un petit point blanc, d'abord imperceptible, grandit bientôt, s'étend comme un vaste linceul, et semble appeler à lui tous les nuages qui l'entourent. Le ciel est voilé. Quelques zigzags de feu, exhalant une odeur de soufre, sillonnent l'espace. La mer, au lieu d'être ridée comme tout à l'heure, devient turbulente et clapoteuse. On la croirait en ébullition. Une chaleur étouffante nous brûle. Pas un souffle pour enfler les voiles qui coiffent les mâts. Et la corvette tourne sur elle-même, privée d'air. Tout à coup, la mer moutonne. « Amenez cargue, laisse porter !» Et nous sommes lancés comme une flèche rapide. Le tonnerre roule avec fracas. La foudre éclate et tombe. Le flot frappe le flot. Les mâts criés se courbent. Une trombe, tourbillonnant sur notre arrière, est prête à nous écraser. La vague est tenue, elle nous envahit de toutes parts. La pluie et la grêle nous fouettent avec un fracas horrible. Et l'intrépide matelot, perché sur la pointe des vergues, ne sait si ce sont les flots ou les eaux du ciel qui l'inondent et le brisent. Il est nuit, nuit profonde, sans horizon, sans étoile au zénith, froide, menaçante encore dans le silence solennel qui succède à la lutte des éléments. Déjà le ciel se dévoile, la corvette reprend son allure d'indépendance. Nous voyons autour de nous et le soleil nage dans une atmosphère d'azur. Avons-nous été assaillis par une tempête, par un ouragan ? Le matelot souriant dit que ce n'est qu'un grain. À la bonne heure, j'aime les points de comparaison. Et l'ouragan sera le bienvenu.